Et le journal est présenté par Antoine Marette. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Nous reviendrons sur les derniers rebondissements en Catalogne. Le parti indépendantiste participera bien aux élections régionales organisées en décembre prochain par le gouvernement espagnol. Nous sommes très attachés à ce que la société catalane puisse s'exprimer, a justifié la porte-parole du parti. Trois proches de Donald Trump inculpés dans l'affaire qui empoisonne les débuts de son mandat, celle d'une possible ingérence de la Russie dans la présidentielle américaine. Parmi elles figure l'ancien directeur de campagne du président. Dans l'actualité française, l'avocat général requiert la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté contre Abdelkader Merah, le frère du tueur de Toulouse et de Montauban. La menace d'un procès se rapproche pour Bernard Tapie. Les derniers recours qu'il a déposés dans l'affaire du Crédit Lyonnais ont été rejetés aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. Et puis les féministes en colère au moment où la Cinémathèque française s'apprête à rendre hommage à Roman Polanski. Le réalisateur a été l'objet de 5 plaintes pour viol sur mineur. Ça ressemble à une marche arrière en Catalogne. Le parti indépendantiste du président destitué va participer aux élections régionales du 21 décembre prochain. Des élections voulues par le gouvernement espagnol, convoquées juste après la proclamation d'indépendance au Parlement catalan et donc destinées à court-circuiter via les urnes cette indépendance. Alors comment le parti de Carles Puigdemont justifie-t-il cette participation aux élections ? Reportage à Barcelone de notre envoyée spéciale Sandrine Etohandeg.
C'est d'abord le parti de la gauche républicaine de Catalogne, l'ERC, qui a annoncé sa participation au scrutin du 21 décembre. Et dans la foulée, le PDCAT, le parti de Carles Puigdemont, a lui aussi confirmé qu'il participera aux élections régionales. L'exécutif catalan s'est réuni ce matin en l'absence de Carles Puigdemont en route pour Bruxelles. La coordinatrice générale du PDCAT donne rendez-vous à Mariano Rajoy devant les urnes.
Nous n'avons pas peur des urnes. On a toujours considéré que les urnes sont une opportunité, une option pour défendre notre projet de république, notre projet collectif. Et donc, nous y participerons. C'est le message très clair que nous envoyons à M. Rajoy. Nous serons au rendez-vous. Parce que nous n'acceptons pas cette application de l'article 155, une procédure mesquine qui essaie d'anéantir notre gouvernement, notre autonomie et nos institutions.
El nostre autogovern, la nostra autonomia i les nostres institucions pròpies.
Alors la stratégie du PDCAT va s'affiner dans les jours et dans les semaines qui arrivent. Un comité électoral va être constitué. L'objectif, c'est d'obtenir une majorité absolue, montrer que la Catalogne n'est pas prête à perdre ce qu'elle a construit le 1er octobre et vendredi dernier.
Et de son côté, le parquet espagnol a enclenché une procédure qui pourrait déboucher sur l'inculpation pour rébellion du président catalan destitué, Carles Puigdemont, qui se trouve à Bruxelles. Selon les médias espagnols, il serait accompagné de plusieurs membres de son gouvernement destitué, sans que l'on connaisse pour l'instant le motif exact de cette visite. Si visite il y a, Quentin Dickinson.
Eh bien, tout ce qu'il y a de certain dans cette affaire passablement embrouillée, probablement d'ailleurs à dessein, c'est que M. Puigdemont a tweeté ce matin une photo du plafond de son bureau dans le palais de la Généralité de Catalogne pour bien montrer qu'il s'y trouvait encore. 3 heures plus tard, le ministère espagnol de l'Intérieur annonçait que l'intéressé se trouvait à Bruxelles. Depuis lors, tout le monde le cherche ici, sans toutefois en trouver la moindre trace, y compris auprès de la délégation de la région catalane auprès de l'UE, qui normalement devrait être au courant de ces mouvements ici. Toutefois, si la présence de M. Puigdemont devait se vérifier, 2 hypothèses contradictoires pourraient l'expliquer. La première, c'est qu'en totale discrétion, les présidents des institutions européennes tenteraient de rapprocher les partis. La seconde, c'est que Carles Puigdemont cherche à impliquer dans son affaire et à leur corps défendant les Européens, qui ont pourtant maintes fois déjà fait savoir que cette crise hispano-espagnole ne les regardait pas. En tout cas, l'hypothèse d'une demande par M. Puigdemont du statut de réfugié politique en Belgique, qui excite depuis 3 jours la classe politico-médiatique belge, paraît, selon les juristes, plutôt fantaisiste.
3 proches de Donald Trump inculpés dans l'affaire qui empoisonne le début de son mandat, celle d'une possible ingérence de la Russie dans la présidentielle américaine de 2016. Parmi elles figure l'ancien directeur de campagne du président. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Un de ces inculpés, au moins, a reconnu des contacts avec Moscou.
Oui, il s'appelle George Papadopoulos. Il a été pendant la campagne l'un des conseillers aux affaires étrangères de Trump. Et qu'apprend-on aujourd'hui? Eh bien que Papadopoulos a été entendu début janvier par des enquêteurs du FBI et qu'aujourd'hui il plaide coupable de fausses déclarations. Il a menti aux agents fédéraux et l'acte d'accusation de 14 pages qui a été rendu public tout à l'heure par le bureau du procureur spécial Robert Mueller est assez édifiant. On y apprend que ce conseiller avait donc des liens directs avec plusieurs officiels à Moscou, que l'un d'entre eux, surnommé le professeur, a proposé de lui fournir des milliers d'emails capable de salir la campagne d'Hillary Clinton et qu'il a été question un temps d'organiser une rencontre entre le candidat Trump et le président Poutine. C'est donc grâce à ce troisième homme que les enquêteurs établissent un lien direct avec l'entourage de Trump, mais les inculpations des deux autres proches du président, à savoir l'ex-directeur de campagne Paul Manafort et son associé Rick Gates, sont également très fortes aussi. 12 chefs d'inculpation au total pour ces deux hommes, dont blanchiment d'argent, fraude fiscale. Les deux hommes sont entendus depuis 8 heures ce matin dans les locaux du FBI ici à Washington et vont être présentés un peu plus tard dans la journée. On est à une cour fédérale.
Alors Donald Trump a réagi à sa façon sur Twitter. Le président américain a réaffirmé qu'il n'existait, je cite, aucune collusion entre son équipe et la Russie et a ajouté pourquoi Hillary Clinton, la crapule et les démocrates ne sont-ils pas visés ? Fin de citation. Donald Trump fidèle à lui-même, donc qu'est-ce qui peut se passer maintenant ?
Alors d'abord l'audition de Manafort et Gates par cette cour fédérale, elle aura lieu donc cet après-midi. On saura peut-être dans la journée s'ils sont incarcérés, ce serait évidemment une étape très importante de l'enquête. Ensuite, dans quelques minutes, conférence de presse de la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. On va voir comment l'administration de Trump interprète ces tout derniers éléments. Quant au procureur spécial Robert Mueller, il va poursuivre ses investigations. Attention, Trump, ou plutôt l'administration de Trump peut le révoquer à tout moment. C'est ce qui était arrivé au moment de l'affaire du Watergate, décision de Nixon, mais on se souvient que l'affaire avait fini par lui coûter son poste à la Maison-Blanche. Pour l'instant, on fait savoir que le président n'a pas l'intention de limoger le procureur spécial.
Merci à vous, Grégory Phillips, en direct de Washington. Le président kényan proclamé vainqueur de la présidentielle du 26 octobre avec 98,6% des voix. Uhuru Kenyatta estime que cette victoire, je cite, est une nouvelle confirmation de la volonté du peuple en référence à sa réélection au scrutin du 8 août, invalidé en justice. Le scrutin de la semaine dernière n'a pas pu se tenir dans 4 comtés de l'ouest du pays acquis à l'opposition. 3 Palestiniens tués et plusieurs autres blessés aujourd'hui dans le bombardement par Israël d'un tunnel reliant la bande de Gaza au territoire israélien. Bilan fourni par le ministère de la Santé du Hamas. L'un d'entre eux, des victimes, faisait partie de la branche armée du Hamas, tandis que les deux autres sont des membres présumés du djihad islamique, un groupe radical allié au Hamas. Quelques heures plus tôt, un porte-parole de l'armée israélienne avait annoncé qu'un tunnel terroriste, je cite, qui menait au sud d'Israël depuis la zone Khan Younes avait été neutralisé. 19h08 sur France Culture, dans l'actualité française, la dernière semaine pour le procès Merah, avec aujourd'hui le réquisitoire. Abdelkader Merah est poursuivi donc pour complicité des 7 assassinats commis par son frère en 2012. Le réquisitoire a eu lieu cet après-midi. La procureure demande la perpétuité pour Abdelkader Merah. Au palais de justice de Paris, les précisions de Florence Turme.
En 2012, le terrorisme a pris un nouveau visage. C'est le rôle de la justice de le démasquer. Formule incisive, débit de parole ultra rapide, l'avocate générale s'arrête d'abord sur ces images insoutenables qui ont imprégné ces 4 semaines d'audience. 19 mars 2012, 21 secondes pour pulvériser 4 vies dont 3 n'avaient pas encore pris leur envol. Les militaires, ensuite, symbole de l'État français. 3 fusillades, 3 attentats, ce n'est pas un coup de folie, poursuit Naïma Rudloff. Je ne connais aucun homme, aussi amoral, aussi vil soit-il, capable de faire cela. Il faut une légitimation de ces actes, une puissante justification. Mohamed Merah est celui qui appuie sur la détente, mais il n'a pas agi tout seul. Il convient d'examiner l'affiliation à Al-Qaïda, l'incubation terroriste des frères Merah. Abdelkader a fabriqué Mohamed Merah, lance la magistrate. Elle sait qu'elle s'adresse à une cour composée de magistrats professionnels et le propos devient plus technique, plus juridique. La lutte contre le terrorisme ne déroge pas à l'application du droit. Pour appuyer les réquisitions, il faut démontrer l'association de malfaiteurs et la complicité d'assassinat. La sienne relève parfois plus du tableau impressionniste qu'évoquait ce matin l'un des avocats de la partie civile que d'un raisonnement imparable. Mais pour Naïma Rudloff, tous les éléments mis bout à bout, la culpabilité d'Abdelkader Merah ne fait aucun doute et elle n'oublie pas Feta Malki, ce parfait opportuniste sans foi, ni loi, ni morale. L'arme fournie à Mohamed Merah, rappelle-t-elle, a tué 4 personnes. C'est un acte volontaire de soutien à une entreprise terroriste, insiste l'avocat général, même s'il ne connaît pas l'objectif exact. Là encore, elle convoque les textes de loi à l'adresse de ses pairs. Il suffit qu'il s'agisse d'un acte potentiellement terroriste. Feta Malki, contre qui elle vient de requérir 20 ans de réclusion criminelle et la perpétuité pour Abdelkader Merah.
François Compaoré, laissé en liberté, le frère de l'ancien président déchu burkinabé, a été arrêté hier à l'aéroport de Roissy. À son retour d'Abidjan, son pays a délivré à son encontre un mandat d'arrêt international. La justice du Burkina Faso enquête sur l'assassinat en 98 du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses 3 compagnons de voyage. Bonsoir Sarah Maquet.
Bonsoir.
François Compaoré est donc libre ce soir, mais sous contrôle judiciaire.
Oui, en effet, la justice burkinabé a maintenant 20 jours pour transmettre à la France des éléments justifiant l'extradition de François Compaoré. Pour son avocat Pierre-Olivier Sûr, les faits de 98 sont de toute façon prescrits et l'arrestation serait, selon lui, politique 3 ans après le renversement de Blaise Compaoré.
Le Burkina, ne parvenant pas à juger Blaise Compaoré, se retourne aujourd'hui contre son frère François Compaoré. Il s'agit de l'instrumentalisation du juge judiciaire par le politique, juge judiciaire burkinabé, et plus grave à nos yeux, juge judiciaire français. C'est la raison pour laquelle je pense que la France n'acceptera pas cette demande d'extradition.
Une intervention politique également dénoncée par l'association contre la France-Afrique survit. Mais pour son porte-parole Thomas Borrell, cette intervention politique aurait au contraire favorisé la remise en liberté de François Compaoré.
Le parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante et on a du mal à croire au vu de l'affaire qu'une telle décision ait pu être prise sans en référer au gouvernement. On s'inquiète du signal très politique quelques semaines avant que Emmanuel Macron se rende au Burkina Faso. Et on rappelle quand même que François Compaoré, s'il a échappé à la justice de son pays, c'est parce qu'il a fui au moment de la chute de son frère, avec son frère à bord d'un hélicoptère de l'armée française. Donc il a déjà été soustrait une fois à la justice de son pays par intervention française. Il ne faudrait pas que ça soit le cas une nouvelle fois.
Et François Compaoré, libre sous contrôle judiciaire, doit demander l'autorisation à la chambre de l'instruction s'il souhaite se rendre à l'étranger. Une autorisation qui lui serait, selon son avocat, accordée.
Merci Sarah Maquet. La menace d'un procès se rapproche pour Bernard Tapie. Les derniers recours qu'il a déposés dans l'affaire du Crédit Lyonnais ont été rejetés aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. Il n'y a donc plus de procédure en nullité dans cette affaire de l'arbitrage controversé, lui ayant permis de toucher 404 millions d'euros en 2008 pour régler son litige avec le Crédit Lyonnais. Alors Lise Verbeek, cela ouvre la voie à un procès pénal.
Oui, il appartient désormais au juge chargé de l'instruction d'ordonner ou non le renvoi de Bernard Tapie devant le tribunal correctionnel. C'est en tout cas ce que demande le parquet de Paris, que l'homme d'affaires soit jugé pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics avec 5 autres protagonistes de l'affaire. Par ses recours en nullité, les avocats de Bernard Tapie ont tenté de manière classique de gagner du temps en attaquant la procédure sur la forme, mais en vain donc. Cela fait plus de 20 ans que l'affaire dure, 20 ans et pas mal de rebondissements. Pour ne citer que les derniers, en 2008, donc, le tribunal arbitral privé donne raison à Bernard Tapie et condamne le Crédit Lyonnais à lui verser 404 millions d'euros. En 2015, l'arbitrage est annulé pour fraude. Les époux Tapie sont condamnés à rembourser cette somme. Et en mai dernier, la Cour de cassation confirme cette annulation au civil. En parallèle, les juges ont donc poursuivi l'enquête au pénal pour escroquerie en bande organisée. Parmi les mises en examen, outre Bernard Tapie, il y a le juge Pierre Estoupe, l'un des 3 juges à avoir procédé à l'arbitrage. Il est accusé d'avoir eu des échanges avec l'avocat de Bernard Tapie à l'époque, ce qui remet en cause son indépendance de juge. Et également mis en examen le PDG actuel d'Orange, Stéphane Richard, à l'époque directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy. Les juges le soupçonnent d'avoir eu un rôle déterminant quant au choix de procéder à un arbitrage privé et d'avoir dissimulé des informations à sa ministre de tutelle. Il pourrait donc être renvoyé en correctionnel aux côtés de Bernard Tapie.
Merci à vous, Lise Verbeek. Pas de sélection à l'entrée à l'université, mais des exigences. C'est l'engagement d'Édouard Philippe ce matin lors d'une conférence de presse sur ce sujet à haut risque. Le Premier ministre a pesé chacun de ses mots. Entre la sélection brutale et le tirage au sort, il existe une palette de solutions beaucoup plus souples, plus humaines et plus intelligente, c'est ce qu'a déclaré Édouard Philippe. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Antoine Marette.
La palette proposée par le Premier ministre comme un parcours pédagogique obligatoire pour remettre à niveau les bacheliers les plus faibles, eh bien cette palette suscite de nombreuses réactions ce soir.
Oui, pour Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pas question de parler de sélection, mais d'attendu. Si le bac reste l'unique passeport d'entrée à l'université, un grand travail d'information et d'orientation sera fait dès la terminale. Dans les filières sous tension, comme STAPS, Psycho ou Droit, les universités pourront même tenir compte de l'avis du conseil de classe, un choix qu'assume Frédéric Vidal.
Je vais être très claire. Demain, ce sont toujours les bacheliers qui choisiront la filière de licence dans laquelle ils veulent poursuivre leurs études. Et dès qu'il y aura de la place, nul ne pourra leur refuser l'entrée au motif qu'ils n'ont pas encore les connaissances ou les compétences attendues. Mais nul étudiant ne pourra rejoindre une formation déterminée s'il refuse les voies pédagogiques adaptées, jugées nécessaires à sa réussite, fixées par les établissements. C'est une question de confiance.
Des mesures qui viseront en grande partie les bacheliers professionnels et technologiques qui devront suivre une année de remise à niveau à l'université avant de rejoindre la filière de leur choix. Ce que dénonce Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES, principal syndicat du secondaire.
On va surtout se centrer sur un certain nombre de jeunes, notamment issus des baccalauréats professionnels et technologiques, et que on risque d'avoir des avis qui prennent pas en compte le fait qu'un jeune peut évoluer, y compris dans son parcours, et qui peut se révéler à l'université, alors que c'était pas spontanément quelque chose qui apparaissait dans le second degré.
Autant de réformes qui vont nécessiter des moyens supplémentaires. Le gouvernement va injecter 1 milliard d'euros sur 5 ans, ce qui doit également permettre de créer 130 000 nouvelles places dans les licences sous tension. Gilles Roussel, le président de la CPU, la conférence des présidents d'université, salue ce geste, mais l'estime insuffisant par rapport à la moyenne de l'OCDE.
On va être obligé de faire avec les moyens que nous aurons, 1,4% par rapport au 1,5 en moyenne et 1,6 par exemple pour l'Allemagne. Et donc l'effort que nous avions envisagé, nous, était pour revenir dans la moyenne des pays développés en termes d'investissement dans l'avenir, investissement dans les universités.
1,4%, cela correspond au PIB. En attendant, le temps presse, car avec la hausse démographique, il y aura 200 000 étudiants de plus d'ici 5 ans.
Merci à vous, Hakim Kasmi. L'affaire Polanski ressurgit dans le sillage de la campagne contre les violences sexuelles imposées aux femmes. Le réalisateur a été l'objet de 5 plaintes pour viol sur mineur et la Cinémathèque française s'apprête à lui rendre hommage dans le cadre d'une rétrospective qu'il doit inaugurer ce soir. C'en est trop pour plusieurs associations féministes qui appellent à manifester tout à l'heure à 19h30 devant la Cinémathèque. Bonsoir Cécile de Carvaz-Doué.
Bonsoir.
La question qui est posée, c'est peut-on séparer l'artiste de son œuvre.
Mais c'est ce que dit la Cinémathèque, qui devant la levée de boucliers des associations féministes, déjà depuis la semaine dernière, crie à la censure. C'est aussi ce que dit la ministre de la Culture dans un communiqué qui appelle à protéger l'œuvre de Roman Polanski. Mais l'argument des féministes mobilisés, c'est que ça n'est pas du tout ça le débat. Il faut déconstruire le mythe qui veut séparer l'homme de l'artiste, disent-elles. Un mythe qui ne s'applique souvent qu'au milieu de la culture, puisque qui dira par exemple que lorsqu'un prêtre abuse d'un mineur, il faut séparer l'homme de son œuvre. Ce mythe leur semble d'autant plus hypocrite que ces hommes se servent de leur pouvoir d'artiste pour assouvir leurs instincts de prédateurs sexuels. Ne plaçons pas ce débat sous un angle moral ni même culturel, m'a expliqué ainsi la porte-parole d'Oser le féminisme. Cette affaire est avant tout une affaire de justice et de crime impuni, puisque depuis 40 ans, Roman Polanski, qui a fui en Europe, fait l'objet de poursuites aux États-Unis pour le viol d'une mineure. La victime avait 13 ans à l'époque et Roman Polanski avait alors reconnu l'avoir drogué et violé avant de fuir en Europe, donc pour échapper à la prison. Il lui avait ensuite versé, à la fin des années 80, une somme d'argent pour que le volet civil soit clos, mais aux États-Unis, il n'y a pas de prescription et la justice refuse donc toujours d'abandonner les poursuites, malgré les demandes de la victime qui, elle, a pardonné, dit-elle, à son agresseur. En juin dernier, le juge de Los Angeles a ainsi rappelé que la justice américaine attendait toujours Roman Polanski, d'autant que d'autres plaintes et témoignages de viol lui ont été adressés. En 2010, l'actrice britannique Charlotte Lewis a raconté avoir été forcée par le réalisateur à avoir une relation sexuelle alors qu'elle n'avait que 16 ans. En août dernier, 2017, donc, une femme a également raconté avoir été abusée par le cinéaste en 1973, à l'âge de 16 ans. Au début de ce mois d'octobre, en Suisse, c'est une actrice allemande, Renate Langer, qui dit elle aussi avoir été violées par Roman Polanski à l'âge de 15 ans. Et puis le 20 octobre dernier, une autre actrice, Marianne Barnard, accuse encore le cinéaste de 84 ans de l'avoir violée lors d'une séance de photos en 1975, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Impossible devant ces accusations de permettre l'hommage à la Cinémathèque française, clament donc des associations comme Oser le Féminisme, le Collectif contre le Viol, La Barbe ou encore Les Femmes, car pour elle, cette rétrospective participe à honorer l'homme et donc à valider l'idée que violer un enfant, ce ne serait finalement pas si grave devant le génie de l'artiste.
Merci à vous, Cécile de Kervas-Doué. Demain, temps vivifiant sur une bonne partie de la France. Un soleil froid va dominer le pays. Dans l'après-midi, il fera seulement 4 degrés à Nancy, 9 à Paris, 12 à Bordeaux, 17 à Ajaccio. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h. Il vous sera présenté par Valentine Joubin.